Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Acender a luz, senão prontos. Estamos?
Josef Roth, die Legende vom heiligen Trinker.
La légende du Saint Buveur de Josef Roth. Adaptation bilingue, Cécile Weisbrot. Sur une idée d'Helmut Pechina.
Un soir de printemps de l'année 1934, un homme d'un certain âge descendait les marches de pierre qui conduisaient d'un pont aux rives de la Seine. C'est sur ces rives que les clochards ont coutume de dormir, ou plutôt de coucher à même le sol. L'un de ces malheureux se dirigeait vers l'homme qui était bien habillé et donnait l'impression d'être un voyageur. Comme tous ceux dont il partageait l'existence, ce clochard était débraillé et pitoyable, mais il attira l'attention de l'inconnu. Le monsieur bien habillé arrêta l'homme débraillé.
Où allez-vous, mon frère ?
Je ne savais pas que j'avais un frère, et je ne sais pas trop où je vais.
Je pourrais vous montrer le chemin, mais ne m'en veuillez pas si je vous demande une faveur un peu étrange.
Je suis à votre service.
Je vois bien qu'il vous arrive de fauter, mais c'est Dieu qui vous envoie vers moi. Vous avez besoin d'argent, c'est évident, ne le prenez pas mal. Moi, j'en ai trop. Dites-moi franchement combien il vous faudrait, au moins pour le moment.
20 francs.
Je suis sûr que ce n'est pas assez. Il vous en faut bien 200.
Évidemment, je préfère avoir 200 francs plutôt que 20, mais vous vous trompez sur mon compte. Je suis un homme d'honneur. Je ne peux pas accepter l'argent que vous me proposez. D'abord, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Ensuite, je ne sais pas quand ni comment je pourrais vous le rendre. Et enfin, vous n'aurez aucun moyen de me retrouver. Je n'ai pas d'adresse. J'habite tous les jours sous un autre pont.
Moi non plus, je n'ai pas d'adresse. Moi aussi, j'habite tous les jours sous un autre pont. Et pourtant, je vous demande d'avoir la gentillesse d'accepter ces 200 francs. C'est une somme ridicule pour un homme comme vous. Pour le remboursement, il serait trop long de vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous donner l'adresse d'une banque ou déposer l'argent. Je suis devenu chrétien en lisant l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux. Et depuis, je voue un culte particulier à la petite statue de la chapelle Sainte-Marie des Batignolles. Vous la trouverez facilement. Quand vous serez rentré en possession de ces 200 francs, et que votre conscience vous dictera de rembourser cette somme ridicule, je vous en prie, allez à Sainte-Marie des Batignolles et remettez l'argent entre les mains du prêtre qui dira la messe.
Il sortit 200 francs de son portefeuille et les tendit à l'homme qui chancelait encore.
Thank you.
Il disparut dans l'obscurité profonde. Maintenant, en bas, tout était plongé dans les ténèbres, tandis qu'en haut, sur les ponts et sur les quais, les réverbères d'argent s'allumaient, annonciateurs des folles nuits parisiennes. L'homme bien habillé disparut lui aussi dans les ténèbres. Le miracle de la conversion lui avait été accordé, et il avait décidé de mener la vie des plus pauvres. C'est pourquoi il habitait sous les ponts. Quant à l'autre, c'était un vrai buveur, et même un ivrogne. Il s'appelait Andreas. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu 200 francs à lui. Il remonta l'escalier qui menait des bords de la Seine au quai. Là, il savait qu'il y avait un restaurant. Il entra, il mangea, il but en abondance et dépensa beaucoup d'argent, et emporta une bouteille pour la nuit qu'il allait passer sous les ponts, comme les autres nuits. Le lendemain matin, Andreas se leva plus tôt que d'habitude, car pour une fois, il avait bien dormi. Au bout d'un certain temps, il se souvint du miracle qui s'était produit la veille. Il décida de se laver, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois, depuis la saison froide. Pour commencer la journée, ces journées qu'il gaspillait depuis des temps immémoriaux, il se dirigea vers la rue des Quatre Vents, comme à son habitude, la rue du restaurant russo-arménien Taribari, où il dilapidait en mauvaise boisson la maigre somme que le destin lui allouait. Mais pris de l'envie subite de connaître le jour et la date, il s'arrêta en route au premier kiosque. Il acheta un journal et vit qu'on était jeudi. Il se souvint tout à coup qu'il était né un jeudi, et sans regarder la date, décréta que ce jeudi était le jour de son anniversaire. Comme il se sentait d'humeur joyeuse, il n'hésita qu'un instant avant de prendre de nobles résolutions. Il n'irait pas au Taribari, mais dans un endroit plus chic pour y prendre un café rhum et une tartine beurrée. Malgré ses haillons, il entra d'un air assuré dans un bistrot bourgeois et s'assit à une table, alors qu'il était habitué depuis des lustres à rester debout au comptoir, ou plutôt à s'y appuyer. Comme sa place faisait face à un miroir, il ne put s'empêcher de se regarder. Comparant sa physionomie à celle des gens comme il faut qui étaient assis à côté de lui, il fut effrayé par son propre visage. Il décida d'aller chez le coiffeur. De retour au bistrot, notre Andreas s'assit et passa sa commande d'une voix assurée, de la voix d'autrefois qui était de retour comme une vieille amie.
Un café, arrosé de rhum.
Il observa qu'on le servait avec le respect qu'affichent les garçons qui servent des clients respectables. Un homme qui était seul à une table le considéra longuement avant de s'adresser à lui.
Vous voulez gagner un peu d'argent ? Venez travailler chez moi. Je déménage demain. Vous pourriez aider ma femme et aussi les déménageurs. Vous m'avez l'air d'un homme solide. Vous pouvez ? Vous en avez envie ?
Bien sûr.
Quel est votre tarif pour 2 jours de travail ? Pour demain et samedi. L'appartement est assez grand, je vous préviens, et j'emménage dans un appartement encore plus grand. En plus, j'ai beaucoup de meubles. Et moi, il faut que je m'occupe du magasin.
Je suis votre homme.
Vous prenez quelque chose ?
2 pernos.
Andreas et l'homme trinquèrent.
Combien voulez-vous pour demain et pour samedi ? Comme je vous l'ai dit, c'est un appartement assez grand.
Je sais pas.
200 francs. Ça vous va ?
ça me va.
Voilà mon adresse et un billet de 100 francs. Pour être sûr que vous viendrez demain, après le travail, on ira prendre un apéritif ensemble. Au revoir, mon ami.
Puis le gros monsieur au visage poupin s'en alla, et Andreas s'étonna, parce que l'homme avait sorti sa carte de visite du même portefeuille que l'argent. Comme il avait de l'argent et la perspective d'en gagner encore, il décida de se procurer un portefeuille, lui aussi. Dans la maroquinerie qu'il trouva en cours de route, il y avait une jeune vendeuse. Elle lui parut jolie. Elle avait une certaine façon de se tenir derrière le comptoir, une robe noire stricte, avec une bavette blanche sur la poitrine, des cheveux frisés et un lourd bracelet d'or au poignet droit.
Bonjour.
Je cherche un portefeuille.
Bonjour.
La jeune fille jeta un bref regard sur ses mauvais vêtements, mais sans la moindre méchanceté dans les yeux. Pour éviter d'inutiles questions, elle se hâta de grimper sur une échelle et tira un carton de l'étagère du haut. Dedans, il y avait des portefeuilles que des clients avaient rapportés pour les échanger. Andreas découvrit à cette occasion que la jeune fille avait de très belles jambes et de jolis escarpins, et se souvint du temps lointain où il caressait des chevilles et embrassait des pieds de ce genre. Mais il ne se souvenait plus des visages, du visage de ces femmes. Si, il y en avait une, celle pour laquelle il avait fait de la prison. Entre-temps, la jeune fille était redescendue de l'échelle, avait ouvert le carton, et il choisit l'un des portefeuilles du dessus sans regarder les autres. Il paya et fourra discrètement le portefeuille dans sa poche sans y mettre d'argent. L'objet lui semblait tout à coup absurde. En revanche, l'échelle, les jambes et les pieds de la jeune fille occupaient toute sa pensée. C'est pourquoi il se dirigea vers Montmartre, à la recherche des lieux où il avait connu du plaisir autrefois. Dans une ruelle étroite et escarpée, il retrouva le bar à filles et il s'assit au milieu d'elle.
C'est ma tournée.
Il choisit l'une des filles, celle qui était le plus près de lui, et il monta avec elle. Le lendemain matin, le vendredi, il alla travailler chez le gros monsieur. Il s'agissait d'aider sa femme à faire des cartons. Pendant la journée, il sentit les forces revenir dans ses muscles et se réjouit de travailler, car il avait toujours travaillé. Il était dans les mines de charbon, comme son père. Si seulement cette femme ne l'avait pas énervé en lui donnant des ordres stupides. Andreas travailla toute la journée.
Venez demain matin à 7h pile. Voilà votre pourboire. Ne buvez pas tout et soyez à l'heure demain.
Andreas la remercia, s'en alla, but son pourboire mais sans plus.
Chaud.
Il passa la nuit dans un petit hôtel. On le réveilla à 6 heures du matin. Il se lava et se rendit au travail frais et dispo.
Je vois que vous avez suivi mon conseil. Vous n'avez pas bu tout votre argent.
Andreas se mit à l'ouvrage, puis il accompagna la femme dans la maison où ils emménageaient et attendit le retour du gros homme sympathique qui lui donna le salaire promis.
Venez, je vous invite à prendre un verre.
Mais la femme s'interposa entre eux et barra le passage à son mari.
C'est l'heure de dîner.
Andreas partit, but tout seul, mangea seul et s'installa au comptoir de deux autres bars. Il buvait beaucoup, mais il n'était pas saoul et faisait attention à ne pas trop dépenser, car il voulait tenir sa promesse et aller à Sainte-Marie-des-Batignolles le lendemain matin rendre à la petite Sainte-Thérèse au moins une partie de sa dette. Mais il n'arriva pas à temps pour la messe de 10 heures. Les gens sortaient déjà de l'église.
S'il vous plaît, à quelle heure est la prochaine messe ?
À midi.
La prochaine messe était dans 1 heure. Il ne voulait pas passer 7 heures à attendre dans la rue. Il regarda autour de lui et aperçut, à droite, en diagonale de la chapelle, un bistrot dans lequel il entra.
Un Pernod. La même chose.
Il en but un troisième. À chaque fois, il mettait moins d'eau dans son verre. Au quatrième, il ne savait plus s'il avait bu 2 verres ou 5 ou 6. Il ne se souvenait pas non plus de la raison pour laquelle il avait atterri dans ce café. Il savait seulement qu'il avait obéi à un devoir d'honneur. Il paya, se leva, se dirigea vers la porte d'un pas relativement sûr, aperçut la chapelle en diagonale à gauche, et sut alors où il se trouvait et pour quelle raison.
Andreas !
Il s'arrêta, tourna la tête vers la droite, d'où venait la voix. Il reconnut aussitôt le visage de celle qui était la cause de son séjour en prison.
Caroline ?
Welch eine Begegnung. Bist du allein?
Ja. Ja, ja, ich bin allein.
Komm, wir wollen uns aussprechen.
Aber ich bin verabredet.
Mit einem Frauenzimmer?
Ja.
Mit wem?
Mit der kleinen Therese.
Sie hat nichts zu bedeuten. Taxi!
Ne voulant rien savoir du rendez-vous avec la petite Thérèse, Caroline héla un taxi en agitant son parapluie. Elle donna une adresse au chauffeur, et avant qu'Andreas ait pu réaliser qu'il se trouvait dans une voiture à côté de Caroline, il roulait dans des rues parfois connues, parfois inconnues, filant vers Dieu sait quelle contrée. Ils s'arrêtèrent dans un paysage vert tendre, le vert d'avant le printemps, dans un jardin avec quelques arbres derrière lesquels se cachait un restaurant. Caroline descendit la première, au pas de charge habituel, après l'avoir enjambée. Elle paya et il suivit. Ils entrèrent dans le restaurant et s'assirent l'un à côté de l'autre, comme avant la prison, au temps de leur jeunesse. Elle commanda le repas comme à son habitude et le regarda, alors que lui n'osait pas lever les yeux sur elle.
Où bist du die ganze Zeit gewesen?
Überall. Nirgends. Ich arbeite erst seit 2 Tagen wieder. Die ganze Zeit, seitdem wir uns nicht wiedergesehen haben, habe ich getrunken. Und ich habe unter den Brücken geschlafen. Wie alle unser eins. Und du hast wahrscheinlich ein besseres Leben geführt, hein? Mit Männern.
Elle demanda ce qu'il avait fait tout ce temps, et Andreas répondit qu'il vivait sous les ponts, qu'il ne travaillait que depuis 2 jours, et qu'elle, sans doute, vivait bien avec d'autres hommes.
Und du? mittendrin, wo du versoffen bist und ohne Arbeit und wo du unter Brücken schläfst, hast du noch Zeit und Gelegenheit, eine Therese kennenzulernen. Und wenn ich nicht gekommen wäre, zufällig, wärest du wirklich zu ihr hingegangen.
Caroline rétorqua qu'il avait réussi à rencontrer une certaine Thérèse. Andreas ne répondit pas, ne dit rien jusqu'à ce qu'ils aient mangé leur viande, puis vint le fromage et les fruits. Tandis qu'il avalait une dernière gorgée de vin, une brusque panique l'envahit. Celle qu'il avait souvent éprouvée des années avant, au temps de sa vie avec Caroline. De nouveau, il eut envie de fuir.
Garçon, l'addition.
Das ist meine Sache.
Garçon.
C'est monsieur qui a demandé le premier.
Ce fut Andreas qui paya. Il avait sorti l'argent de la poche intérieure gauche de sa veste et après avoir payé, s'aperçut avec un effroi un peu tempéré par le vin qu'il n'avait plus en sa possession la totalité de la somme qu'il devait à la petite sainte.
Du bist also ein reicher Mann. Und dieser kleinen Therese lässt du dich wohl aushalten.
Caroline fit remarquer qu'il était riche et se faisait sans doute entretenir par la petite Thérèse. Andreas ne répondit pas, et Caroline crut qu'elle avait raison.
Puis ils allèrent au bal, on jouait de l'accordéon. Cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas dansé, qu'avec Caroline, ils ne savaient presque plus comment s'y prendre. D'autres danseurs l'évincèrent, elle était encore fraîche et désirable. Seul à sa table, il buvait du Pernod et c'était comme avant. Caroline dansait avec d'autres, tandis que lui buvait seul, dans son coin. Tout à coup, il se précipita pour l'arracher au bras d'un danseur.
Sie gehen nach Hause.
Il la prit par la nuque et sans lâcher, il paya et repartit avec elle. Elle n'habitait pas très loin. Tout était comme par le passé, comme avant la prison. Il se réveilla tôt le lendemain matin. Caroline dormait encore. Maintenant, il voyait ce qu'il n'avait pas vu quand ils s'étaient rencontrés la veille. Elle avait vieilli. Le visage pâle et bouffi, la respiration lourde, elle dormait du sommeil matinal des femmes vieillissantes. Il reconnut alors les transformations du temps qui passe, celles que lui-même avait subies, et décida de se lever sans tarder. Il s'habilla et s'en alla comme un voleur pour commencer cette journée nouvelle, une journée comme les autres.
Un Pernod, s'il vous plaît.
Tout en buvant, il se souvint qu'il était à Paris sans permis de séjour, car il venait d'Olchowice, en Silésie polonaise, et il était arrivé en France pour travailler comme mineur de fonds. Puis il se souvint qu'un jour, il y a des années, il était venu parce qu'une annonce dans le journal disait qu'en France, on cherchait des travailleurs dans les mines de charbon. Toute sa vie, il avait rêvé d'habiter un pays lointain. Il travaillait à la mine de Québec et logeait chez des compatriotes, le couple chez Bietz. Il aimait la femme. Et un jour, pour empêcher le mari de la tuer, ce fut Andreas qui le tua. Et pour cela, il fit 2 ans de prison. La femme, c'était Caroline.
Un autre Pernod.
Andreas avait oublié son nom depuis longtemps. Mais maintenant, il se souvenait qu'il s'appelait Kartak. Andreas Kartak. C'était comme s'il se redécouvrait lui-même après bien des années. Il passa le reste de la journée dans le café, se faisant à l'idée que l'époque des miracles était terminée et que les temps anciens étaient revenus. Acceptant la lente déchéance à laquelle les buveurs sont préparés, Andreas retourna au bord de la Seine, sous les ponts. Il dormait un peu le jour, un peu la nuit, comme il en avait l'habitude depuis 1 an. Jusqu'à la nuit du jeudi au vendredi. Cette fois, il rêva de la petite Thérèse, qui avait l'aspect d'une jeune fille aux boucles blondes et qui lui disait de ne pas oublier d'aller ce dimanche à Sainte-Marie des Batignolles.
Pourquoi tu n'es pas venu dimanche dernier ?
Wie sprichst du zu mir? Hast du vergessen, dass ich dein Vater bin?
Pardonne-moi, mon père, mais fais-moi plaisir. Viens me voir après-demain dimanche à Sainte-Marie des Batignolles.
Après cette nuit, il se leva, revigoré comme la semaine précédente, comme si le temps des miracles était revenu, comme s'il prenait son rêve pour la réalité. Une fois encore, il voulut se laver dans le fleuve, mais avant d'enlever sa veste, il tâta la poche intérieure gauche, et sa main ne trouva pas de billet, mais le portefeuille en cuir qu'il avait acheté quelques jours avant. C'était un portefeuille bon marché et usé. Il le considéra avec perplexité, car il n'avait aucun souvenir de l'avoir acheté.
Wie kommt das zu mir?
Il finit par l'ouvrir et vit qu'il avait deux compartiments. Intrigué, il regarda dans les deux et trouva un billet. Il le sortit. C'était un billet de 1000 francs. Là-dessus, il fourra les 1000 francs dans la poche de son pantalon, remit sa veste et commença sa journée en entrant dans un tabac.
Je voudrais des cigarettes.
Il avait assez de monnaie pour payer les cigarettes, mais il ne voyait pas à quelle occasion il pourrait changer le billet de 1000 francs qu'il avait miraculeusement trouvé dans son portefeuille.
J'aimerais changer ce billet de 1000 francs si c'est possible, mais si vous ne pouvez pas, je vous donnerai de la monnaie.
Au contraire, j'avais besoin d'un billet de 1000 francs, vous tombez à pic.
Le monsieur du tabac changea le billet à la stupéfaction d'Andreas, qui commanda du vin blanc. Il but 3 verres, disons pour remercier le destin, et comme il se tenait debout au comptoir, il remarqua derrière le large dos du patron un dessin encadré au mur, et ce dessin lui rappela un ancien camarade de classe à Olchowitz.
Qui c'est ? Je crois que je le connais.
Incroyable. Il ne sait pas qui c'est, mais c'est Cagnac, le grand footballeur d'origine silésienne. Tout le monde le connaît.
Bien sûr que je le connais, c'est même un ami. Mais le portrait n'est pas très fidèle.
Et en effet, le grand footballeur Cagnac était son ancien camarade de classe. Andreas se souvenait qu'il y a 20 ans, ils étaient sur le même banc d'école. Et comme avoir de l'argent le rendait audacieux, il décida de se renseigner.
Vous connaissez son adresse ?
Il habite dans un hôtel des Champs-Élysées.
Andreas se mit aussitôt en route.
Warum schaust du so verkommen aus?
Et en effet, plus tard, le célèbre Cagnac descendait dans le hall de l'hôtel. Ils se reconnurent tout de suite.
Es wäre schrecklich, wenn ich erzählen wollte, wie das alles gekommen ist. Und reden wir von was Heiterem. Ich habe viele Anzüge. Und es wird mir eine Freude sein, dir den einen oder den anderen davon abzugeben. Wo soll ich ihn dir hinschicken?
Das kannst du nicht. Und zwar einfach deshalb, weil ich keine Adresse habe.
Ich wohne nämlich seit einiger Zeit unter den Brücken an der Seine.
Cagnac était étonné de voir Andreas porter des vêtements aussi misérables et proposa de lui faire livrer un costume. Mais Andreas répondit que ce n'était pas possible. Il vivait sous les ponts.
So werde ich dir also ein Zimmer mieten, einfach zu dem Zweck, dir einen Anzug schenken zu können. Komm.
Alors Cagnac proposa de lui louer une chambre. Après avoir mangé, ils sortirent et le footballeur Cagnac trouva une chambre pour un loyer de 25 francs par jour, près de la grande église de Paris, connue sous le nom de Madeleine.
Du brauchst wahrscheinlich Seife.
Unser Eins kann auch ohne Seife leben. Ich gedenke, hier 8 Tage ohne Seife zu wohnen und ich werde mich trotzdem waschen.
Cagnac proposa d'acheter du savon, mais Andreas préférait boire en l'honneur de la chambre. Le footballeur commanda une bouteille de cognac. Ils burent tout jusqu'à la dernière goutte. Puis ils sortirent et prirent un taxi pour aller à Montmartre, dans ce bar où il y avait des filles.
Jetzt ist es spät. Ich lasse dich allein. Ich schicke dir morgen 2 Anzüge.
La chambre d'hôtel où Andreas vivait désormais avait le numéro 89. Dès qu'Andreas se retrouva seul, il s'assit dans un fauteuil confortable recouvert de reps roses et regarda autour de lui. Il y avait une porte avec un bouton blanc qui l'intriguait, et malgré une certaine angoisse, car il n'avait pas l'habitude des chambres d'hôtel, il se leva et décida d'aller voir où menait cette porte. C'était une salle de bain avec des carreaux de faïence étincelants, une baignoire d'un blanc éclatant et des toilettes. À cet instant, il éprouva le besoin de se laver et fit couler de l'eau chaude et de l'eau froide de chaque robinet. Il entra dans la baignoire avec le sentiment de ne pas s'être lavé depuis longtemps. Il prit un bain voluptueux, se leva et se rhabilla sans plus savoir quoi faire. Par désœuvrement plutôt que par curiosité, il ouvrit la porte de sa chambre, sortit dans le couloir et aperçut une jeune femme qui sortait elle aussi de la sienne. Il s'inclina légèrement et la salua. Elle répondit d'un hochement de tête, ce qui l'encouragea.
Vous êtes belle.
Vous aussi, vous me plaisez. On pourrait se voir demain.
Elle s'enfonça dans l'obscurité du couloir. Pris d'un brusque besoin d'amour, il nota le numéro de la chambre qu'elle occupait. C'était le 87. Il le conserva dans son cœur et décida de ne pas attendre le lendemain pour la revoir. Lorsque le pas discret de l'occupante de la chambre 87 se fit entendre, il entrebâilla sa porte avec précaution, et en effet, c'était bien elle qui rentrait. Mais il omit un détail d'importance. La jeune fille, elle aussi, avait observé son manège. Elle fit rapidement un semblant d'ordre dans sa chambre, éteignit la lumière au plafond, s'allongea sur le lit et prit un livre qu'elle fit semblant de lire à la lueur de sa lampe de chevet. Mais c'était un livre qu'elle avait déjà lu. Quelques instants plus tard, on frappait timidement à sa porte et comme elle l'avait prévu, Andreas fit son entrée.
Que désirez-vous ?
Je ne peux pas attendre jusqu'à demain, chère madame.
Je ne suis que de passage. Je repars dès dimanche. Lundi, je dois être à Cannes pour un spectacle.
Que faites-vous ?
Je suis danseuse au casino. Je m'appelle Gabi. Vous n'avez jamais entendu parler de moi ?
Mais si. Si, j'ai vu votre nom dans le journal.
Andreas qui mentait faillit ajouter « dans les journaux sous lesquels je m'abrite ». Mais il s'assit sur le rebord du lit et la fille ne protesta pas. Elle reposa le livre et Andreas resta dans la chambre 87 jusqu'au lendemain matin. Le samedi, au réveil, il était fermement décidé à ne pas quitter la jolie jeune fille jusqu'à ce qu'elle parte.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? Je repars à Cannes demain.
Et si on allait à Fontainebleau ?
La jolie jeune fille proposa de prendre un taxi et ils roulèrent jusqu'à Fontainebleau où il s'avéra qu'elle connaissait un bon restaurant où l'on pouvait se régaler de plats délicieux et boire d'excellents vins. Ils passèrent quelque temps à manger et à boire et repartirent vers Paris, toujours en taxi. La nuit s'étendait devant eux, tel un désert trop lumineux. Ayant gaspillé à la légère l'expérience essentielle donnée en partage à l'homme et à la femme, ils ne savaient plus que faire d'eux-mêmes.
Si on allait au cinéma.
Va pour le cinéma.
Le lendemain matin, c'était dimanche, et Andreas se réveilla avec la conscience du devoir. Il devait rembourser cet argent. Il se leva plus vite que la veille, si vite que la jolie jeune fille se réveilla en sursaut.
Il faut que j'aille rembourser une dette.
Aujourd'hui? Un dimanche?
Oui, un dimanche.
Tu dois de l'argent à qui? Un homme ou une femme?
Une femme.
Elle s'appelle comment?
Thérèse.
La jolie jeune fille sauta du lit, serra les poings et frappa Andreas à la figure. Il s'enfuit de la chambre et il quitta l'hôtel. Il se dirigea vers Sainte-Marie-des-Batignolles sans se retourner, certain de pouvoir enfin rendre les 200 francs à la petite Thérèse. Mais la Providence, ou le hasard diront des gens moins croyants, voulut qu'Andreas arrive de nouveau après la messe de 10 heures. Il aperçut près de l'église le bistrot dans lequel il était allé boire la dernière fois, et tout naturellement y entra de nouveau. Il commanda à boire, mais devenu plus prudent, il s'assura qu'il avait assez d'argent pour payer. C'est alors qu'il s'aperçut que des 980 francs, il ne lui restait presque rien. Il n'avait plus que 250 francs. En y réfléchissant, il comprit que c'était la jolie jeune fille de l'hôtel qui lui avait pris l'argent. Notre Andreas ne s'enfuit pas pour autant. Il se dit que chaque plaisir se payait et que, comme il avait eu du plaisir, il devait payer. Il but. Les cloches qui appelaient à la messe se mirent à sonner.
Garçon, l'addition.
Il paya, se leva, sortit, et se heurta sur le seuil à un homme immense, à la carrure imposante.
Voiter!
Andreas!
Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, car ils avaient travaillé ensemble à Québec, à la mine de charbon.
Wenn du mich hier erwarten willst, 20 Minuten nur, so lange wie die Messe dauert, nicht einen Moment länger.
Gerade nicht. Seit wann gehst du überhaupt in die Messe? Ich kann die Pfaffen nicht leiden und noch weniger die Leute, die zu den Pfaffen gehen.
Andreas lui demanda de l'attendre, parce qu'il devait aller à la Messe. Wojter voulut l'en empêcher.
Aber ich gehe zur kleinen Therese. Ich bin ihr Geld schuldig.
Meinst du die kleine heilige Therese?
Ja, ja, die meine ich.
Wie viel schuldest du ihr?
200 francs.
Dann begleite ich dich.
Apprenant qu'Andreas devait 200 francs à la petite Sainte Thérèse, Wojter proposa de l'accompagner. Ils entrèrent dans l'église.
Gib mir sofort 100 francs. Ich erinnere mich eben, dass mich drüben einer erwartet. Ich komme sonst ins Kriminal.
Wojter lui demanda 100 francs. Il devait absolument les rendre à quelqu'un, sinon il irait en prison. Andreas lui donna aussitôt ses 2 derniers billets de 100 francs.
Ich komme sofort nach.
Mais quand Andreas comprit qu'il n'avait plus d'argent, il trouva absurde d'assister à la messe et rejoignit le bistrot où Wojtek l'attendait. Ils promirent de ne plus se quitter désormais. En fait, Wojtek n'avait pas d'amis à rembourser. Le billet de 100 francs qu'Andreas lui avait prêté, il l'avait soigneusement dissimulé dans un mouchoir qu'il avait noué. Avec l'autre billet, il invita Andreas à boire et boire encore. Ils partirent dans la nuit vers la maison des filles de joie et y restèrent pendant 3 jours. Quand ils en ressortirent, on était mardi, et Wojtek prit congé d'Andreas, lui donnant rendez-vous pour le dimanche suivant.
Sonntag sehen wir uns wieder. Um dieselbe Zeit und an der gleichen Stelle und am selben Ort.
Servus.
Servus.
L'après-midi était pluvieux. La pluie tombait si drue que Wojtek disparut instantanément. Telle fut du moins l'impression d'Andreas. N'ayant plus que 35 francs en poche, comme tous les pauvres et les gens habitués à boire, Andreas décida de s'en remettre à Dieu, le seul auquel il croyait. Il alla vers la Seine et descendit l'escalier familier qui menait au refuge des clochards. Là, il se heurta à un homme sur le point de remonter les marches, et comme il avait l'impression de le connaître, Andreas le salua poliment. L'homme d'un certain âge et d'apparence soignée s'arrêta pour considérer Andreas avec attention.
Vous avez besoin d'argent, cher monsieur ?
Je sais que je vous dois de l'argent. Je devais même le rapporter à Sainte-Thérèse. Mais il s'est passé tellement de choses. Ça fait 3 fois qu'on m'empêche de rendre cet argent.
Andreas crut reconnaître l'étranger qu'il avait rencontré 3 semaines auparavant.
Vous faites erreur. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Vous me prenez pour quelqu'un d'autre, mais vous m'avez l'air d'être dans l'embarras. Quant à Sainte-Thérèse, dont vous venez de parler, je lui suis profondément attaché et je suis prêt à vous avancer l'argent que vous lui devez. Ça fait combien ?
200 francs. Pardonnez-moi, mais vous ne me connaissez pas. Je suis un homme d'honneur et vous aurez du mal à me retrouver. Car si j'ai de l'honneur, je n'ai pas d'adresse. Je dors sous les ponts.
Ben, c'est pas grave, moi aussi je dors sous les ponts. Si vous acceptez de prendre cet argent, vous me ferez une faveur dont je vous serai éternellement reconnaissant. Moi aussi, je dois beaucoup à la petite Thérèse.
Dans ces conditions, je suis à votre disposition.
Il prit l'argent, attendit que l'homme arrive en haut des marches, pour gravir à son tour l'escalier et aller tout droit rue des Quatre Vents, dans son cher restaurant russo-arménien, le Taribari, où il resta jusqu'au samedi soir. Là, il se souvint que le lendemain, on était dimanche, et qu'il devait aller à la chapelle Sainte-Marie des Batignolles. Andreas se leva très tôt ce dimanche, non parce qu'il avait peur de rater la messe, mais parce qu'il se disait que le patron ne manquerait pas de lui réclamer le prix de la boisson, des repas et du logement pour son séjour. Mais le patron s'était levé encore plus tôt, et Andreas dut payer les repas et les boissons qu'il avait consommés en abondance du mardi au dimanche. Bien que délesté d'une bonne partie de son argent, il se dirigea vers la chapelle Sainte-Marie des Batignolles. Et tandis qu'il allait vers son bistrot familier, il entendit qu'on l'appelait et sentit une main se poser avec rudesse sur son épaule. Il se retourna, c'était un policier. Notre Andreas, nous le savons, n'avait pas de papier comme beaucoup de ses semblables. Il prit peur et fouilla dans sa poche pour faire croire qu'il était en règle.
Inutile de fouiller dans votre poche. Vous avez perdu votre portefeuille. Le voici. Voilà ce que c'est de boire trop d'apéritifs dès le matin.
Andreas s'empara hâtivement du portefeuille, eut à peine le sang-froid de lever son chapeau et alla droit au bistrot. Il retrouva Voiter qui était déjà là. Ils passèrent leur temps à s'inviter mutuellement et ils ne burent que du Pernod.
Mir ist wieder etwas Merkwürdiges geschehen. Wie ich da zu unserem Rendezvous herübergehen will, fasst mich ein Polizist an der Schulter und sagt: Sie haben Ihre Brieftasche verloren und gib mir eine, die mir gar nicht gehört. Und ich stecke sie ein. Und jetzt will ich nachschauen, was es eigentlich ist.
Tout en racontant à Voiter son aventure avec le policier, Andreas sortit le portefeuille et l'examina. Il y avait toutes sortes de papiers qui ne le concernaient pas, mais il vit qu'il y avait aussi de l'argent à l'intérieur. Il compta les billets. Cela faisait tout juste 200 francs.
Siehst du? Das ist ein Zeichen Gottes. Jetzt gehe ich hinüber und zahle endlich mein Geld.
Andreas y vit un signe de Dieu et voulut aller à l'église.
Dazu hast du ja Zeit, bis die Messe zu Ende ist. Wozu brauchst du denn die Messe? Während der Messe kannst du nichts zurückzahlen. Nach der Messe gehst du in die Sakristei und inzwischen trinken wir.
Natürlich. Wie du willst.
Mais il accepta d'attendre la fin de la messe. À ce moment-là, la porte s'ouvrit, et tout en éprouvant une douleur étrange au cœur et une grande faiblesse dans la tête, Andreas vit entrer une jeune fille qui vint s'asseoir sur la banquette en face de lui. Elle avait l'air très jeune et portait des habits bleu ciel. Il s'avança en titubant, s'inclina et lui demanda
« Qu'est-ce que vous faites là ?»«
J'attends mes parents qui sortent de la messe. Ils viennent me chercher. Ils y vont un dimanche par mois. »«
Vous vous appelez comment ?»«
Thérèse. »«
Vous êtes charmante. Je n'aurais jamais cru qu'une sainte si grande et si petite, qu'une créancière si grande et si petite. » me ferait l'honneur de venir jusqu'à moi alors que j'aurais dû aller la voir depuis longtemps.
Je ne comprends pas de quoi vous parlez.
Vous êtes pleine de délicatesse. Pleine de délicatesse et je sais l'apprécier. Cela fait longtemps que je vous dois 200 francs, sainte demoiselle. Et je n'ai pas trouvé le temps de vous les rendre.
Elle sortit de son sac un billet de 100 francs qu'elle lui donna.
Vous ne me devez rien, mais j'ai un peu d'argent dans mon sac. Tenez, prenez-le et partez. Mes parents ne vont pas tarder.
Voiter voyait la scène dans le miroir. Il se leva de son siège en chancelant, commanda deux pernauds et voulut entraîner Andreas au comptoir pour qu'il boive avec lui. C'est alors qu'Andreas, au moment de s'avancer vers le comptoir, s'effondre comme un tas. Au bistrot, tout le monde prend peur, y compris Voiter, et en particulier la jeune fille du nom de Thérèse. On le traîne jusqu'à la chapelle, car il n'y a ni docteur ni pharmacie à proximité, ou plutôt à la sacristie, car les prêtres s'y connaissent en matière de morts et de mourants. La demoiselle du nom de Thérèse ne peut s'empêcher de venir, elle aussi. On emporte donc le pauvre Andreas à la sacristie. Hélas, il ne peut plus parler, mais il esquisse un geste. celui de fouiller dans la poche intérieure gauche de sa veste, là où il y a l'argent qu'il doit à sa petite créancière.
Mademoiselle Thérèse.
Et il rend son dernier souffle et meurt. Que Dieu nous accorde, à nous autres buveurs, une aussi douce et belle mort.
Mademoiselle Thérèse. 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 Mademoiselle Thérèse.
Josef Roth, die Legende vom heiligen Trinker.
La légende du Saint-Buveur de Josef Roth. Adaptation bilingue, Cécile Weisbrot, sur une idée d'Helmut Peschina. Narrateur, Philippe Dormois. L'étranger, Philippe Magnan.
Andreas, Tony de Maillère.
Le Gros, Christian Pellissier. La maîtresse de maison, Amélie Jallier.
Caroline Jule Beuve.
Le garçon et le monsieur du tabac, Georges Kless. Thérèse, Camille Garcia. Le policier, Olivier Perrier.
Cagnac, Peter Davor.
La jolie fille, Karine Adrover.
Wojtech, Michael Rotschopf.
Violoncelle,
Jörn Lazarus.
Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage, mixage,
Jean-Boris Schimschak et Thorsten Weigelt.
Assistant à la réalisation,
Jakob Diehl et Nicole Köstler.
Réalisation, Marguerite Gâteau. Remerciements au restaurant Le Vepler et à l'église Notre-Dame de Grâce de Passy pour les enregistrements à Paris. Production, Deutschlandradio Kultur, Saarländischer Rundfunk et France Culture.